Chagrin des autres avec Valérie Collin-Simard. Valérie Collin-Simard, vous avez 32 ans, vous avez été journaliste au Point, à Canal Plus et à TF1, et vous publiez aux éditions Anne Carrière, donc Le Chagrin des autres, ils ont besoin de vous, osez aller vers eux, avec une très belle couverture, hein, des mains qui se tendent vers l'autre, enfin des mains qui se rencontrent plutôt. Alors, on peut se poser la question d'emblée, vous avez 32 ans, vous êtes jeune, vous avez un petit bébé. Comment vous intéresser à un sujet pareil, parce que vous avez été donc voir des gens qui ont souffert cruellement de la perte d'un enfant, de la perte d'un être cher, de maladies, enfin qui sont malades eux-mêmes, et aussi des psychiatres ou des médecins qui accompagnent ces gens qui souffrent. Comment l'idée vous est-elle venue?
Et bien d'abord, je crois que j'ai voulu montrer non pas la souffrance, mais j'ai voulu montrer que toutes ces personnes-là s'en étaient sorties. Et j'ai voulu montrer que toutes ces personnes qui avaient vraiment vécu le pire pouvaient s'en sortir. Et j'ai voulu que tout le monde le sache.
Enfin, comment le sujet vous est venu à l'idée? Parce que c'est quand même pas de votre âge, j'allais dire.
Et bien d'abord, je dois dire que c'est mon éditeur qui a eu l'idée, Anne Carrière, qui a eu l'idée du sujet. Et puis ensuite, je dois dire que le sujet m'a passionnée parce que ce sont un peu, en fait, je considère toutes les personnes que j'ai rencontrées un peu comme des héros et comme des héroïnes. Mmh. Parce que quand on a traversé des épreuves qu'on peut un peu qualifier d'initiatiques, qu'on a passé par des épreuves aussi dures et qu'on s'en est sorti, je trouve qu'on est un héros.
Oui. Des gens qui ont vécu, comme le dit François Chandernagor dans le livre que vous avez interviewé, dans un malheur extraordinaire, on se sent soi-même désarmé. Ce sont donc des malheurs extraordinaires, effectivement, que vous avez rencontrés, et des gens qui vous ont parlé de ce malheur, de ces malheurs. On ne peut pas, parler sur un mode général, parce que chaque histoire est particulière. Mais ce que l'on peut dire, me semble-t-il, c'est que la plupart de ces personnes qui ont souffert, donc, comme je disais, soit de la perte d'un enfant, enfin, le malheur extraordinaire, ce qu'elles ressentent, c'est le besoin d'en parler, et d'en parler longtemps, au cours des ans, puisque quelquefois, lorsqu'on a perdu un bébé à 2 mois et demi, par exemple, après 12 ans, on a encore envie d'en parler, et on trouve peu de gens autour de soi qui ont envie de vous écouter. Je crois qu'il y a une jeune mère qui a perdu son enfant il y a comme ça 11 ou 12 ans, et les personnes auxquelles elle en parlait, certaines lui ont dit « tu nous fais chier avec ces problèmes ».
Oui, mais d'ailleurs, l'entourage d'une personne qui souffre est désarmé. C'est ce que dit justement François Chandernagor, qui, elle, a côtoyé beaucoup Geneviève, qui a perdu ses deux petites filles. Et donc, ce livre est justement destiné à aider l'entourage des personnes qui souffrent. Et je crois que chaque personne peut retrouver, comme vous le dites très bien, il n'y a pas de règle. Et je crois que dans ce livre, chaque personne peut retrouver un exemple qui va le concerner, qu'il va retrouver dans son entourage.
Parce que la difficulté lorsqu'on est un ami, lorsqu'on est quelqu'un qui est proche de ces personnes qui sont frappées de ces malheurs, c'est que souvent on ne sait pas trop quoi dire. Ou alors, une parole qui est dite par une personne donnée n'a pas le même sens pour celle qu'il reçoit que si c'était dit par quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est extrêmement ténu, c'est extrêmement fragile comme type de relation.
Mais la plupart des personnes que j'ai rencontrées me disent, je pense à Alain Boulet, la petite fille a été morte assassinée, me disent que ce n'est pas grave de ne pas savoir quoi dire. Ce qui est grave, c'est de faire semblant ou de dire qu'il y a des gens qui venaient vers lui en disant « ça va ?» Enfin, de manière extrêmement très maladroite, et pour lui, c'était épouvantable. Alors que les gens qui allaient vers lui en lui disant « je ne sais pas quoi te dire », c'était bien.
Si tu veux mon ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire ? Dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus, mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. C'est le Saint-Exupéry, donc bien sûr, qui est un peu en exergue, disons, d'une association qui s'occupe effectivement d'accompagnement, dont parle l'une des personnes que vous avez rencontrées, Annick Ernaux, mais qu'on peut généraliser, je crois, à l'ensemble du livre et à l'ensemble des situations. C'est-à-dire cette relation difficile, mais qu'il faut avoir, puisque les gens qui sont dans ces malheurs se plaignent beaucoup d'être seuls. Petit à petit, on les abandonne, on les laisse seuls, on ne sait pas quoi leur dire. Et très souvent, vous dites, en fin de compte, ils créent des associations, ou ils se retrouvent au sein d'associations, où enfin ils peuvent parler chacun de son malheur, puisque les autres ont connu ce même type de souffrance.
Oui, oui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent ont trouvé refuge dans une association. Mais je suis allée voir les personnes qui ont fondé des associations justement pour leur demander conseil, comment aider les personnes qui souffrent. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas quoi faire et eux étaient justement de vos conseils.
Alors qu'est-ce qu'ils disaient justement ?
Bien justement, ils disent tous que, et Annick Hermie en particulier, disent tous qu'il n'y a pas de règles et qu'il faut savoir d'abord être là, qu'il faut savoir écouter, que ça c'est la chose la plus difficile, et c'est la règle du silence, c'est écouter, entendre et pouvoir tout entendre, ce qui n'est pas toujours le cas des personnes proches, parce que ça fait très mal d'entendre quelqu'un qu'on aime dire sa souffrance.
Il y a une mère, je crois, qui a perdu son enfant et qui a trouvé le plus grand secours, disons, dans un autre enfant qu'elle avait, qui avait 2 ans, auquel elle dit « ton frère est mort ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette rencontre, où finalement personne autour d'elle n'avait été capable de l'entendre, enfin son petit enfant l'a porté.
Oui, vous parlez de Chantal. Elle était désespérée et autour d'elle, tout le monde, c'était très difficile pour elle parce qu'elle avait à supporter en plus la souffrance des autres. C'est-à-dire que tout le monde essayait, c'était quelqu'un finalement d'assez fort, qui avait toujours l'habitude de montrer cette apparence de force. Et en fait, tout le monde se retournait vers elle pour se faire consoler, alors que c'était elle qui avait perdu son enfant.
Alors lorsqu'on constitue ces associations, je pense notamment au père de la petite Delphine qui avait été assassiné, enfin qui avait connu une détresse extrême. Vous pouvez peut-être raconter ce qu'il a fait.
Bien, donc Alain Boulet est le père de la petite Delphine qui a été assassiné et peut-être torturé. Et donc pour lui, il dit que ce qui était le plus difficile pour lui, c'était justement le face-à-face avec la vie normale. Et que les gens souvent mettent des étiquettes sur les personnes qui ont vécu ce genre de souffrance et que c'est très difficile de se sortir du statut de victime. Il dit quand on se sent victime, on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que si tout le monde nous regarde, dit-il, avec commisération, avec pitié, la pitié c'est très dur à supporter. Et lui, il avait besoin au contraire qu'on le regarde comme un être humain, qu'il retrouve sa dignité. Il ne voulait surtout pas renier le fait qu'il était le père de Delphine, mais il voulait se remettre à vivre et c'était quelque chose de légitime. Et quelque part, certains autour de lui, il a fondé une association, l'association des parents d'enfants victimes, et il disait qu'il y avait des personnes qui étaient membres de l'association, dont les enfants étaient morts de cette manière épouvantable, qui ne se donnaient pas le droit de s'en sortir, parce qu'ils se sentaient coupables de se remettre à exister alors que leur enfant était mort dans des conditions si tragiques. Mmh. Et je crois que justement, peut-être qu'il dit que les amis peuvent aider à reprendre une vie normale et à ne pas se laisser enfermer dans une étiquette.
Alors ce que dit aussi François Chandernagor, c'est que lorsqu'on perd, hein, ce qui a été le cas donc de Geneviève, d'avoir perdu 2 petites filles, lorsque c'est le cas et qu'il y a d'autres enfants dans la famille, de ne pas avoir peur de les amener au cimetière, de leur faire vivre les moments de séparation.
Ah oui,
que ça ne reste pas quelque chose d'abstrait.
Ah oui, elle le dit de manière très très affirmative. Elle dit « emmenez vos enfants à l'enterrement ». Parce qu'elle a exactement cette expérience. Elle avait 2 petits-enfants. Dès qu'elle a appris la mort des enfants de Geneviève, elle les a tout de suite confiés. Elle a confié ses propres enfants à sa grand-mère. Et puis elle a accueilli chez elle Geneviève et son mari. Et elle n'a pas du tout pensé, évidemment, à ce que pouvaient éprouver ses propres enfants. Il n'y a pas pensé une seule seconde. Alors l'aînée, il n'y a pas eu de problème. D'abord, elle l'a emmenée à l'enterrement. Et puis l'autre, elle s'est dit, il est trop petit, je ne vais pas l'emmener. Et puis en fait, elle ne s'en est pas occupée. Et en fait, lui, il a commencé à avoir des problèmes. Un an, 2 ans plus tard, il tombait tout le temps. Enfin, puis au tel point qu'elle l'a emmené chez un psychologue. Et elle s'est aperçue qu'il faisait des cauchemars épouvantables. Qu'il était persuadé qu'en fait, c'était une punition. Il disait, mais ces 2 petites filles, on les a enterrées, mais on les a punies. Mais sortez de là, moi, quand je serai grand, je prends un couteau et j'irai les déterrer. Et c'était jamais sorti de son esprit qu'en fait, c'était une punition. Mmh. Donc tout ça parce qu'on ne l'avait pas emmené à l'enterrement, tout ça parce qu'on n'en avait pas parlé, tout ça parce qu'on pensait qu'il était trop petit.
Alors dans les lettres que ces personnes reçoivent, il y a souvent des lettres de gens qui ont, comme elles, vécu donc ces histoires difficiles, terribles. Et là, les paroles vraies, elles coulent de source, enfin je dirais, c'est plus facile.
Tout à fait, ce sont les paroles du cœur qui atteignent le cœur. C'est ce que dit Geneviève, il n'y a rien de pire, c'est ce que dit Alain Boulet, donc le père de la petite Delphine, c'est ce que dit Geneviève qui a perdu ses 2 petites filles, les lettres de condoléances, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire, c'est alors que 3 mots, personnel qui parle de quelque chose de concret qu'on a vraiment vécu, qu'on avait vraiment vu, ça touche beaucoup plus.
Alors est-ce que vous avez aussi rencontré donc des gens qui aident ces personnes, et notamment Yves Prigent, qui avait écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait « Cette lettre contre la mort », où il disait aux jeunes qu'il ne fallait pas se suicider. Quelle est votre impression de...
Oh ben, Yves Prigent est quelqu'un de passionnant, il est donc neuropsychiatre, il côtoie des personnes qui ont fait des tentatives de suicide, et alors il dit beaucoup de choses, il dit en particulier qu'en général on donne beaucoup de conseils à des personnes dans cette situation, et que le conseil technique ne fait qu'augmenter l'impression de glaciation. Et que, en général, les conseils qu'on peut donner sont des conseils pour vous en bonne santé. Alors que ce qui compte, c'est ce qui passe entre les mots, plus que les mots eux-mêmes.
Oui, parce que c'est vrai que c'est important, ça, pour les gens en bonne santé. On n'a pas le même genre de relation avec des gens qui souffrent qu'avec des gens en bonne santé. Et puis, dans une manière extraordinaire, c'est finalement quand il y a la mort au milieu, puisque, comme a dit Chandler Nagor, toujours, et finalement, les divorces, bon, éventuellement les maladies, tout ça, ça n'a pas. On peut en parler tant qu'il y a la vie derrière.
Mais je crois qu'il faut surtout souligner que chaque histoire d'abord est unique en son genre, que chaque histoire. Que je raconte, moi je l'ai vraiment vécu comme un petit miracle d'entraide, que les amis sont très puissants, c'est ce que dit Geneviève aussi, les amis peuvent aider, on peut beaucoup par des petites choses.
Et vous-même, alors Valérie Collin-Simard, comment vous vous êtes sentie dans toutes ces rencontres, parce que évidemment chaque personne vous accueille de manière différente, il y en a une qui a été très glaciale par exemple lorsque vous êtes arrivée, ou d'autres qui sont plus prête à parler. Comment vous avez pu, disons, vous infiltrer dans toutes ces vies, dans tous ces fragments de vie?
Écoutez, je suis d'abord journaliste, donc c'est mon métier de rencontrer des personnes qui vivent quelque chose de difficile. Les personnes qui m'ont accueilli un peu froidement, je les raconté parce que c'était plus pour tracer leur caractère, c'était plus pour montrer.
Comment vous êtes senti, parce que vous le dites quand même dans le livre, quelquefois vous posez des questions, elles sont quelquefois maladroites, d'autres fois vous n'attendez pas à la réponse. Est-ce que vous avez été surprise?
Oh, très surprise. J'étais éblouie par toutes les personnes que j'ai rencontrées, que j'ai trouvées toutes plus formidables les unes que les autres. À chaque fois que je sortais d'une rencontre, c'était une vraie rencontre. À chaque fois, j'étais bouleversée. Et à chaque fois, j'ai essayé justement de faire sentir à la personne, au lecteur, l'émotion le plus exactement possible de ce qui s'est véritablement passé.
Ouais, de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit, mais aussi de ce que vous avez ressenti, donc de ce qui était entre les mots.
Oui.
Je vous remercie donc pour ce livre, Le chagrin des autres, ils ont besoin de vous, osez aller vers eux, de Valérie Collin-Simard, publié aux éditions Anne Carrière. Et puis lundi, je recevrai le docteur Patrick Ozanne qui nous parlera du problème de l'éthique et progrès médical. Bonsoir à tous, bon week-end et à lundi.
Voici le programme de la soirée sur France Culture. Dans un instant, Agora, suivi à 19h30 des perspectives scientifiques et les avenues de la recherche, Carlo Lage nous parlera des inversions des champs magnétiques terrestres. À 20h, le rythme de la raison à l'abbaye de Solane. Comment on apprend à chanter le grégorien lorsqu'on entre dans la ville?